Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Eh bien oui, ce sera donc notre 137e émission, Histoire de voir, histoire au pluriel. Alors aujourd'hui, écoutez, on va se faire un petit rappel. Bah, vous le saviez sûrement la semaine dernière, on rendait un hommage à Flora Tristan qui est décédée il y a 180 ans. Eh bien écoute, il y avait du monde qui était présent à cette cérémonie. C'était à 11h au cimetière de la Chartreuse. Et nous étions réunis pour lui rendre cet hommage. Alors je vous le fais découvrir sûrement pour beaucoup la vie de la fille de Flora Tristan. Elle s'appelait Aline. Elle a un destin aussi tout à fait particulier, hein, quand même, comme mère, comme la fille de Flora Tristan, mais surtout comme mère de Paul Gauguin. Alors on ignore un peu sa vie, mais je vais la résumer là dans cette intervention que j'ai faite dans le cadre de cette commémoration. Donc ça c'est la première partie de notre émission, qui est un petit peu plus courte que celle d'habitude. La deuxième, ça concerne un personnage romanesque en lui-même, hein. C'est un écrivain que vous connaissez toutes et tous, c'est Ernest Hemingway. Je rappelais la carrière, si je puis dire, de ce personnage qui est haut en couleur, enfin un colosse un peu quand on le voit sur les photos, mais un colosse au pied d'argile, hein, parce qu'il souffrait de gros problèmes de santé. Et puis l'alcoolisme était un petit peu lié à sa personne et ça lui a clairé des gros problèmes, surtout à la fin de sa vie, parce que il était, on dit maintenant, on dirait, à l'époque on disait un écrivain très engagé, hein, il s'est engagé notamment pendant la guerre d'Espagne, il a écrit dessus, hein, pour Qui sonne le glas, pour le rappeler, et il a eu des gros ennuis avec la CIA et le FBI qui lui ont reproché son passé en le suspectant d'être communiste, ce qu'il a toujours refusé d'être. Il était tout simplement antifasciste et à ce titre, il a mené pas mal d'opérations avec sa plume, avec sa voix, avec sa personnalité pour aider ceux qui se libéraient de l'oppression. Et mal lui en a pris, vous écouterez donc la fin de cette émission qui expliquera comment il a subi les harcèlements sans cesse de Hoover, qui était le patron de la CIA, un anticommuniste très radical. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve en direct pour parler encore de littérature, à défaut de parler d'actualité, qui est assez importante et riche aujourd'hui. La semaine dernière, samedi, il y avait des rassemblements gilets jaunes qui ont eu un écho assez faible, mais la colère paysanne se met en place, sans compter celle qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, avec différents secteurs qui rentrent en lutte. Nous en parlerons sûrement sur la clé des ondes, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne émission et je vous dis en direct la semaine prochaine. En attendant, place à Flora Tristan, à sa fille Aline et à Hemingway. L'Amérique latine est toujours présente dans notre émission. À l'occasion du 180e anniversaire de la disparition de Flora Tristan, il est bon de rappeler les liens très forts qui unissaient Flora, puis sa fille Aline et ses enfants au Pérou. En voici un petit témoignage. Flora Tristan est partie le jour de ses 30 ans, 10 ans avant sa mort à Bordeaux. Malgré le refus de l'oncle Pio, le frère de son père, de la reconnaître comme enfant légitime et héritière, malgré qu'il lui ait coupé les vivres, dès son retour en France, rien n'a effacé les liens qu'elle avait avec ce pays. Comme on va le voir, ni Flora, ni sa fille Aline n'ont coupé les ponts avec leur famille péruvienne. Petit rappel, Aline Chazal est née en 1825 et elle est morte en 1867, quasiment au même âge que sa mère Flora. Elle se marie le 15 juin 1846 à Paris avec le journaliste Clovis Gauguin, né en 1814. On doit à ce militant socialiste le monument situé à la Chartreuse, grâce à la souscription qu'il a menée avec son journal Le National. Il participe activement à la révolution de 1848, qui se déclenche 15 jours après la naissance de Paul Gauguin, venu rejoindre sa petite sœur Marie et agrandir ainsi le cercle de la famille. Les barricades se dressent dans Paris à la suite de l'abolition des ateliers nationaux. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République, étouffe la révolte et son gouvernement réprime les ouvriers et leurs sympathisants l'année suivante. La famille Gauguin se trouve ainsi exposée à la répression que va exercer la bourgeoisie républicaine alliée aux monarchistes et autres conservateurs. Clovis Gauguin et ses camarades du National, à l'époque organe du Parti radical, n'ont pas d'autre issue que l'exil. Pour Aline, fidèle aux idées de sa mère, le choix se porte naturellement vers le Pérou. C'est ainsi que la famille Gauguin s'embarque du Havre en 1849, 25 ans après Flora Tristan. Une traversée presque aussi épique que celle décrite par Flora dans son livre « Les pérégrinations d'une paria ». Dès le début, le voyage s'annonce mal. De petit tonnage, le voilier l'Albert, pourtant neuf, roule et tangue dangereusement. Les Gauguin n'ont pas seulement à déplorer les médiocres conditions que l'Albert offre à ses passagers, ils pâtissent aussi des brutalités du capitaine qui les traite avec la plus outrageante grossièreté. Clovis se querelle sans arrêt avec lui. L'incessante répétition de ces disputes est bien fâcheuse car Clovis souffle du cœur. Finit-elle par provoquer quelque aggravation de son mal ? Aline en restera toujours persuadée. Le 30 octobre, alors que l'Albert, parvenu à la pointe de la Patagonie, est au mouillage devant Port Famine, situé dans le détroit de Magellan face à l'île Dawson, Clovis s'écroule dans la baleinière qui doit le mener à terre. Une rupture d'anévrisme a entraîné la mort. C'est un extrait de La vie de Gauguin d'Henri Perruchot et Marc Vaux qui est publié en 1963. La jeune veuve et ses deux enfants sont accueillis à Lima par le grand-oncle, l'oncle Pio, Don Pio. Contrairement à Flora, sa mère, il leur apporte reconnaissance, protection, bienveillance pendant les 6 ans de leur séjour où Paul et Marie Gauguin vont s'éveiller à la vie péruvienne. À sa mort, l'oncle Pio fera d'Aline son héritière. Une décision contestée par la famille. Aline refusera de transiger, aussi intraitable que sa mère, préférant refuser l'héritage. « C'est tout ou rien » dit-elle. Et ce ne fut rien. Elle reprit en toute indépendance son métier de mercière dans une boutique située pour les Parisiens et ceux qui connaissent la ville au coin de la rue de Provence et la rue de la Chaussée-d'Antin. Car, comme le disait fièrement Flora, je cite, « J'ai fait de mes enfants des ouvriers, c'est-à-dire capables d'autonomie. » Avec son esprit d'aventure, son ouverture, ses idées socialistes, Aline a refusé comme Flora la compromission. Quant aux enfants, le retour au sol natal est un véritable dépaysement. Paul, dans ses rêveries, écrit « L'Inca est venu tout droit du soleil et j'y retournerai. » C'est un texte qui a été lu lors de la commémoration et de la cérémonie qui a eu lieu au cimetière de la Chartreuse ce 14 novembre 2024 pour le 180e anniversaire de sa disparition. Merci à tous les participants d'y avoir répondu.
Histoire de voir, Histoire au pluriel, une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis de 13h à 14h, en direct ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Tout le monde connaît Ernest Hemingway. D'abord, c'est un prix Nobel de littérature. On l'a donc rencontré par la lecture, mais aussi au cinéma, où une quinzaine de films ont été tirés de ses livres. Par sa vie d'aventurier, d'homme engagé dans son siècle et dans le combat antifasciste, finalement qui lui porteront tort à la fin de sa vie. On le verra en fin de chronique. Il fut harcelé par la CIA, le FBI et sa chasse aux sorcières névrotiques contre les communistes. Cela sert de prétexte à cette émission par l'intermédiaire d'une interview faite par Marc Fourny du Point de Gérard Cortance qui vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer » c'est chez Albin Michel et qui nous éclaire sur la fin de vie d'Ernest Hemingway. À l'époque, l'utilisation de séances d'électrochoc était à la mode, faisant fi des conséquences ravageuses sur les patients. On pense à ce magnifique film de Miloš Forman, datant de 1975, « Vol au-dessus d'un nid de coucou », décrivant l'univers et les méthodes utilisées dans les hôpitaux psychiatriques dans ces années 60. Petite anecdote, dans le titre original en anglais, le terme « coucou », qui a comme premier sens « l'oiseau », désigne également en argot une personne mentalement dérangée à l'image des patients de l'hôpital psychiatrique où se situe l'intrigue. De coucou à coco, Edgar J. Hoover ne faisait pas la différence. Ernest Hemingway était un grand voyageur, un colosse au pied d'argile avec une mauvaise santé pourtant. Il souffrait de dépression. Cherchant le réconfort dans l'amour, l'amitié, la proximité avec ses semblables, mais aussi l'alcool. Ses engagements politiques, ses passions amoureuses, son goût pour la tauromachie, pour la pêche, la chasse, forme de virilisme, on dirait, de nos jours, ne servait-elle pas à masquer cette fragilité ? Ernest Hemingway nous a livré, à travers ses livres, un roman de son siècle, ballotté entre guerre, révolution. Il ne fut pas simplement un passionné de phrases, mais aussi il fut un acteur de ses combats, rappelé ainsi le chemin de Jack London, qui avait comme lui l'humanité au cœur et la passion de la lutte contre l'injustice. De nombreux points communs qu'il serait peut-être bon d'étudier davantage un autre jour. Alors pourquoi pas aujourd'hui une émission consacrée à Ernest Hemingway, témoin de ce siècle, des combats qui l'ont traversé, des écrits s'appuyant sur ses propres expériences de vie, qui a marqué son style, et aujourd'hui encore les métiers de journaliste, d'écrivain, parfois qui se confondent et peuvent s'en inspirer. Au cours de cette émission, on va essayer de mieux le connaître. Alors, une petite bio. Ernest Hemingway, son vrai nom c'est Ernest Miller Hemingway, sans doute le plus lu des écrivains américains du XXe siècle. Il est né le 21 juillet 1899 dans l'Illinois aux États-Unis. Il est le deuxième fils d'une famille de 6 enfants élevés dans les valeurs religieuses très strictes. Sa mère est musicienne et son père est médecin à Chicago. Il initie dès sa petite enfance au rite de la chasse, de la pêche, lors de vacances familiales passées dans un chalet très isolé d'une région du Michigan. En 1916, lycéen, il participe activement aux disciplines sportives, canoë, boxe, etc., et publie déjà deux petits contes dans le journal de l'école. Il rêve de devenir écrivain. Il débute dans le journalisme, après l'engagement des USA dans la Première Guerre mondiale en avril 1917, il tente de s'engager et est refusé à cause d'une blessure à l'œil. Alors il s'engage dans la Croix-Rouge et sera envoyé comme ambulancier sur le front italien. Il y est gravement blessé aux jambes par les tirs de l'artillerie autrichienne en juillet 1918. Transféré à l'hôpital de Milan, il tombe amoureux d'une jeune infirmière, Anna von Kurowski, qui le repoussera mais lui inspirera le personnage de Catherine Barclay dans un futur roman, L'adieu aux armes. De retour aux USA, il se marie avec Elizabeth Hadley Richardson, son amie d'enfance. Il devient correspondant du Toronto Star et du Star Weekly à Paris et fréquente les Américains de la génération perdue, installés dans la capitale française pendant les années folles. de Francis Scott et Elsa Fitzgerald, en passant par Ezra Pound, avec lesquels il fréquente l'appartement du 27 rue de Fleurys de Gertrude Stein, qui y reçoit dans la tradition des salons du 18e l'avant-garde du monde entier, les peintres comme Picasso, Braque, Matisse, le tout Paris artistique et les étrangers de passage, surtout les Américains. Alors parmi eux, bien sûr, Ernest Hemingway, qui va en profiter pour voyager dans toute l'Europe. Il fait même une interview de Benito Mussolini à propos des guerres gréco-turques. Sa femme donne naissance à leur premier enfant avant de rejoindre les USA en 1923. Écoutons un peu la musique d'époque.
Ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli.
Tout le monde aura reconnu, bien sûr, Joséphine Baker, qu'on ne présente plus, avec ses « J'ai deux amours », qui montre aussi ces années folles où la présence américaine était très très importante. On le verra en fin de conclusion de cette chronique. Il a laissé d'ailleurs un livre qui parle bien de cette période-là. En 1923, sort son premier ouvrage intitulé « Homme sans femme ». Alors, « homme au pluriel, sans femme au pluriel ». Ce qui ne semble pas d'ailleurs être son cas. Puis l'année suivante, il va sortir 50 000 $. Alors il décide d'abandonner le journalisme et retourne à Paris pour suivre Pauline Pfeffer, qui est une journaliste aux éditions américaines de Vogue et Vanity Fair, avec lequel d'ailleurs il va se marier en 1927 après son divorce. Deux ans plus tard, si pour beaucoup 1929 c'est l'année de la Grande Dépression, pour Ernest Hemingway, elle sera marquée par deux événements. Le premier, c'est le suicide de son père, ce qui le touchera profondément. Le second, la parution de son ouvrage « L'adieu aux armes », inspiré de son expérience de la guerre. Le livre est un immense best-seller et qui le fait connaître dans le monde entier, lui assurant ainsi l'aisance financière. Alors, ce roman sera porté deux fois à l'écran. D'abord en 1932, c'est réalisé par Franck Borzage, joué par Gary Cooper et Helen Hayes. Quant au deuxième, ce sera en 1957. C'est Charles Vidor qui le tourne, avec Rock Hudson et Jennifer Jones, et Vittorio De Sica qui est acteur. Alors c'est une version plus hollywoodienne, mais elle est en cinémascope tout de même. Ses succès, cette notoriété lui permet de voyager partout, utilisant ses rencontres, ses voyages comme matière première pour ses ouvrages. En Espagne, il découvre la tauromachie, mais aussi à Cuba, c'est l'île et ses mystères et sa vie. Et puis l'Afrique, qui dont ses voyages, il ressortira bien sûr dans ses livres, ce que nous connaissons tous. En 36, nouvelle rencontre amoureuse avec Martha Gellhorn, qu'il épousera en 1940. Attachés à leur indépendance, ils vivront chacun de leur côté. Martha est une journaliste, correspondante de guerre, écrivaine américaine. Elle a couvert tous les grands conflits mondiaux du XXe siècle, de la guerre d'Espagne à l'invasion du Panama en 1989 par les États-Unis. Une petite chanson maintenant qui va sûrement vous rappeler quelque chose.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro.
Alors oui, Les Neiges du Kilimandjaro, chanté par Pascal Danel. Il publie Les Neiges du Kilimandjaro, qui sera lui-même ce roman, porté en 1952 par Henry King, où jouent Gregory Peck et Ava Gardner, qui lui aussi, ce roman, est le fruit de ses voyages et aussi de ses multiples rencontres et expériences en Afrique. Revenons à l'Espagne, où il côtoie André Malraux, collabore au film de Joris Ivens « Terre d'Espagne », ce qui lui donne matière à écrire pour Qui sonne le glas. Un roman lui aussi porté à l'écran par Franck Borzage avec Gary Cooper, déjà présent pour la première version de L'Adieu aux armes, et l'actrice Ingrid Bergman. Alors dans ce roman, Hemingway, alias Gary Cooper, venu combattre aux côtés des républicains lors de la guerre d'Espagne, est chargé de faire sauter en Castille un pont défendu par les fascistes afin de leur couper la route. Il tombe amoureux de Maria, Ingrid Bergman, une des résistantes du groupe dirigé par Pablo et sa femme Pilar. Un petit peu romanesque. C'est en 1940, il fait l'acquisition de Finca, à Cuba, où il va passer plus d'une vingtaine d'années, et ça devient aujourd'hui, pour ceux qui vont à Cuba, vous pouvez aller le voir, c'est le musée Hemingway. À La Havane, il crée une petite organisation paramilitaire, la Crook Factory, destinée à traquer les nazis présents sur l'île et surtout repérer les sous-marins nazis. Il patrouille lui-même sur son bateau de pêche, baptisé El Pilar, en compagnie de son fidèle capitaine Gregoria Fuentes, qui lui servit de modèle plus tard comme héros du Vieil Homme et la Mer. En 1944, il couvre comme correspondant de guerre le débarquement des Alliés en Normandie et la libération de Paris. D'ailleurs, un de ses faits d'armes, c'est de libérer le bar du Ritz avec une douzaine d'hommes de la 2e division blindée. Ambiance de l'époque. In the Mood, l'orchestre de Glenn Miller, symbolisant vraiment l'après-guerre. Alors justement, après l'après-guerre, il a rencontré une nouvelle femme, Mary Welch, et en 46, ils vont se retirer sur l'île de Cuba et y vivre pendant une vingtaine d'années. C'est là, dans cette période, qu'il publie « Au-delà du fleuve et sous les arbres ». En 1952, c'est son livre le plus célèbre qui va être proposé, c'est « Le vieil homme et la mer ». C'est composé donc sur le modèle épique de Moby Dick d'Herman Melville. Et ce livre lui vaut successivement le prix Pulitzer en 1953 et le prix Nobel de littérature en 1954. Alors cette reconnaissance internationale n'apaise toutefois pas l'auteur qui est de plus en plus malade et sombre dans l'alcoolisme. En 1960, il retourne aux États-Unis où, souffrant à la fois de diabète, de dépression et de perte de mémoire, il est admis deux fois dans une clinique psychiatrique qui le soigne à coups d'électrochocs. Le 2 juillet 61, Ernest Hemingway se suicide d'un coup de fusil dans son chalet de Ketchum, dans l'Idaho, comme s'est suicidé son père. Le triomphe de la révolution cubaine, bien sûr, vont lui attirer des ennuis, lui qui est en si bon terme avec Fidel Castro. Il va avoir des soucis à se faire. Mais que lui reprochent la CIA et le FBI? Suivant Gérard de Cortanze, qui vient de publier ce livre « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions » chez Albin Michel, ils ne l'ont pas assassiné au sens propre. Mais ils l'ont poussé à bout et amené au suicide en le traquant sans relâche. Alors de quoi il l'accuse? D'être communiste, alors que Hemingway, très impliqué dans la guerre civile espagnole côté républicain, donc des rouges, a écrit des articles de soutien aux combattants antifranquistes, participé à des conférences, acheté des ambulances pour les combattants donnant asile aussi aux réfugiés, et pendant la guerre de 39-45, a même signé une pétition critiquant le FBI, le qualifiant d'anti-libéral et de dangereux. Il le dit lui-même, « Je ne suis pas communiste, mais antifasciste. » On lui reproche aussi ses relations avec Fidel Castro. Or, si il a beaucoup de sympathie pour Castro, qui se bat pour la liberté, il n'adhère pas forcément au nouveau régime, mais par contre, sa critique contre l'intransigeance du gouvernement américain, l'embargo, le blocus de Cuba est toujours à l'ordre du jour. Alors, non content d'agiter l'anticommunisme, revenons à la CIA, ils vont même lui reprocher d'être en lien avec la mafia. Alors, mafia qu'il aurait contactée par ses relations notamment avec Ava Gardner, qui est une grande amie de Frank Sinatra. Cet acharnement contre cet homme dépressif, alcoolique, souffrant des yeux, des reins, nostalgique de sa vie à Cuba, finit par accepter de suivre des séances d'électrochoc. Alors la première séance a lieu en décembre 1960, la seconde en 1961, quelques semaines avant sa mort. Dans les lettres qu'il écrit à sa femme, Marie, il constate qu'il perd la mémoire, le goût, la force d'écrire, qu'il n'entend plus, entre guillemets, la rumeur du monde. Toujours d'après Gérard de Cortanze, Hemingway pensait être traqué. Jusqu'au sein même de la clinique, craignant même que des internes soient des agents déguisés du FBI, trouble qui nourrissait ainsi sa paranoïa. Comme son père, avant lui, il va se suicider en juillet 60 avec un fusil de chasse, mettant fin ainsi à la vie de cet écrivain qui, malgré sa maladie, écrit un dernier chef-d'œuvre, Paris est une fête, qui va paraître en 1964, qui prouve que, malgré tout cela, la puissance créatrice est encore à l'œuvre. Alors nous espérons que cette chronique vous aura intéressé. Hemingway, c'est pas n'importe qui, on a essayé de vous le faire sentir. L'auteur, quand il s'engage, on n'est jamais prêt à lui pardonner, moi du moins ceux qui sont victimes de ses écrits et qui contestent leurs décisions ou leurs agressions. C'est un peu le cas d'Hemingway, qui a été comme tout le monde, sûrement un homme plein de défauts, mais qui avait des qualités immenses. Et pour preuve, ces livres sont toujours beaucoup lus et font partie du patrimoine de l'humanité.
Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.